Ce matin, je voudrais vous emmener dans le livre de Ruth. Nous allons lire quelques versets de ce livre, juste pour regarder un petit peu ses implications prophétiques et messianiques. Et avant de passer dans ce livre de Ruth, je vous invite à aller avec moi dans 1 Corinthiens au chapitre 10. Je vais interposer ou transposer, si vous voulez, le nom de Ruth et de Naomi à Israël et ainsi qu'à l'Église. Je vais aussi faire servir de tremplin ces textes de Ruth par ce passage de 1 Corinthiens au chapitre 10, versets 11 et 12. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 10, versets 11 à 12. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. Demanderai à notre frère Hugues de prier un instant pour ce moment. Amen. Ces choses ont été, lors sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ces paroles inspirées sont une excellente introduction au livre de Ruth, même si elles ont été écrites de nombreux siècles plus tard. Car la Bible est le livre de tous les temps, n'est-ce pas? Le livre de Dieu par lequel le Tout-Puissant nous instruit. Les signes des temps, de plus en plus nombreux, montrent bien que nous sommes les générations de la fin des temps. Aussi, ces choses ont été écrites pour nous instruire, nous aussi, afin que nous soyons prêts pour le retour de Christ dont les prophètes ont parlé. Le livre de Ruth est une mine de choses intéressantes pour notre temps, particulièrement au sujet des relations entre Israël et l'Église. Lisons quelques versets de ce magnifique récit afin d'avoir une idée générale, historique et poétique des faits qui s'y sont déroulés. Et cela peut-être vous aidera à mieux comprendre les implications prophétiques et messianiques cachées probablement que je n'aurais pas trouvées dans ce livre. Verset 1er du chapitre 1er. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpah et l'autre Ruth. Et ils y habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Verset 6. Puis elle se leva et elle et ses belles-filles afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Verset 8. Naomi dit à ses belles-filles, « Allez, que chacune retourne à sa maison, à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers moi qui sont morts, et envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent, et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Verset 14. Et elles élevèrent à nouveau la voix, elles pleurèrent encore, Orpah baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Ruth, verset 16, répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu, où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré, que l'Éternel me traite de toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Verset 19, elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. » Nous voyons verset 2 au chapitre 2, verset 17, que Ruth va glaner dans le champ de Boaz jusqu'au soir. Et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé ? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, disait-elle, s'appelle Boaz. » Naomi dit à sa belle-fille « Qu'il soit béni de l'Éternel qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. » Chapitre 4 se termine ainsi, verset 13. Boaz prit Ruth qui devient sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. » Verset 16, Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle en fut sa garde. Verset 17, les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Amen. Du temps des juges, ainsi commence ce récit. Et cela nous rapporte à cette période si confuse dont le livre des juges se fait l'écho. Époque d'apostasie et de décadence spirituelle à laquelle, hélas, en était arrivé le peuple élu. Où était donc la période extraordinaire de la sortie d'Égypte, de l'époque héroïque de la conquête de Canaan? Où sont donc les géants de la foi tels que Moïse, Josué et Caleb? Hélas, Israël se trouve maintenant dans une époque grave et tragique, où la foi du plus grand nombre a disparu, même si de temps en temps, ou de temps à autre, en cette période-là, il y avait du temps des juges, Dieu suscitait quelques libérateurs comme Gédéon, comme Jephté, comme Samson. Pourtant, comme ils sont loin de ressembler à leurs aînés. On avait presque oublié que Dieu a parlé et fait des promesses, et qu'il fallait d'abord lui obéir pour qu'il puisse ensuite bénir son peuple. Cette fois, dans le livre des juges, cette phrase qui exprime leur rétrogradation va être lue. Ils firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et ce même livre de juges se termine par cette triste constatation au chapitre 21, verset 25. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Les temps que nous vivons actuellement pourraient être appelés les temps des juges, n'est-ce pas? Tellement ils sont ressemblants à ceux de cette époque. Chacun en est arrivé, hélas, à faire ce qui lui semble bon. Et l'on peut constater combien les mœurs et le comportement des hommes de notre époque sont de plus en plus tournés vers le mal. Et cela même dans nos milieux religieux et chrétiens, où nombreux sont ceux qui ont oublié qu'ils ont pourtant un roi qui s'appelle Jésus-Christ. Quand on oublie cela, frères et sœurs, c'est la catastrophe. Ce fut déjà le cas il y a près de 20 siècles, rappelez-vous, quand Jésus, le roi des Juifs, est venu au monde pour sauver les humains, car peu nombreux furent ceux qui l'ont reconnu comme le Messie, pourtant annoncé par les Écritures. Et les conséquences furent graves, très graves pour notre peuple. Destruction du temple de Jérusalem en l'an 70, perte du pays, opprobre, souffrance, dispersion. Les conséquences sont encore là 20 siècles après. Où est-il le temps des apôtres tel que les livres des Actes nous le rapportent? Des hommes et des femmes enflammés de foi, des hommes et des femmes enflammés de zèle, de courage pour affirmer la vérité de l'Écriture. Mercredi soir, nous avons eu une démonstration de cette partie dans les livres des Actes. Hélas, c'est le temps des juges pour Israël qui s'est enfermé dans un ritualisme formalisme, vide de sens, et aussi pour l'Église qui se trouve dans la position de celle de la Odyssée, tiède, pauvre, misérable, aveugle et nue. Un tel état de choses ne devrait-il pas nous ramener un peu à la parole de Dieu? L'histoire, bien sûr, prend naissance à Bethléem, dans ce petit village de Mont de Judée, où vivait une famille pieuse, sans problème, jusqu'au jour où, sur une décision, oui, ce matin, je vais parler de décision, je ne vais pas parler de rêve, je vais parler de décision. Une décision lourde de conséquences, leur vie va être complètement bouleversée, emmenant une situation tragique. Les conditions spirituelles du peuple d'Israël étant ce que nous avons décrit plus haut, rappelez-vous. Dieu avait envoyé la famine, conséquence inévitable de l'abandon du Seigneur. La famille d'Élimélec décide d'émigrer, de quitter Bethléem pour aller habiter en Moab, le pays des païens. Quitter la famine pour trouver de l'abondance, c'est bien. Chaque famille juive appartenant à un peuple de prêtres, de sacrificateurs, étant donné l'élection d'Israël, la moindre des choses n'aurait-elle pas été de demander à Dieu si ce départ était dans son plan? Et s'il l'avait demandé à Dieu, bien des choses se seraient passées autrement dans la vie de cette famille. Et que de fois nous agissons aussi ainsi. On décide sans consulter l'Éternel, et on le place devant le fait accompli, sans le prier et bénir notre propre décision. Eh bien, le malheur a commencé là, pour la famille d'Élimélec. Le malheur a commencé là, lors de cette prise de décision sans Dieu. Et pour éviter la famine, ils ont quitté Bethléem et la présence divine pour aller à Moab, lieu de malédiction. Avait-il raison d'agir ainsi? D'autant que les autres habitants de Bethléem sont restés, ont subsisté et ont quand même traversé l'époque difficile de la famine. Si Dieu pouvait prendre soin d'eux, à plus forte raison de la famille d'Élimélec. Et Dieu dans sa bonté a aidé ceux qui sont restés, et même l'abondance est revenue plus tard. C'est ce que la suite du récit nous apprend. Et Naomi, verset 6, à son retour, a pu constater cela. Verset 6 du chapitre 1er. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Pour comprendre mieux les implications prophétiques de ce merveilleux livre de Ruth, il est bon de se souvenir que chacun des noms de lieux ou personnages a une signification symbolique et prophétique, contribuant même à la trame de ce drame dont les conséquences désastreuses sont projetées jusqu'à notre temps aujourd'hui. Élimélec, le chef de la famille, a un nom qui signifie « Dieu est mon roi ». Comment, avec un tel nom, Dieu peut prendre une décision sans le Seigneur? Dieu est mon roi. Naomi, son épouse, signifie « douceur ». Oui, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et tous deux forment un couple de choix, car ils appartiennent à la famille royale de Juda, une famille spécialement choisie et appelée, de laquelle naîtra, tenez-vous bien, David, et bien plus tard, le Messie, celui que les nations appellent Jésus, notre Jésus. Ce n'est certainement pas par hasard qu'ils habitent Bethléem, car cette petite bourgade dont le nom signifie « maison du pain ». Ils ont quitté la maison du pain pour aller dans un pays de malédiction. Maison du pain sera le lieu de naissance du Messie. Ici naîtra plus tard Yeshua, le pain de vie. Je suis le pain de vie, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde.
Amen.
Vous comprenez alors combien il est important que cette famille ne s'éloigne pas de Bethléem. Et combien d'entre nous, lorsque nous sommes sous les ailes de notre Seigneur nous bénit et nous chérit et nous voulons sortir de là et aller dans certains pays de malédiction. Oui, il ne faut pas que l'on s'éloigne de Bethléem, comme la famille d'Élimélec. Et il n'aurait pas fallu qu'elle parte à Moab, lieu de malédiction, qui signifie ici du Père. Les Moabites sont le produit d'un inceste. Et nous le pouvons le voir en Genèse. Est-ce que vous le savez que les Moabites sont le sujet d'un inceste? Vous le saviez ça? Genèse chapitre 19, où Lot, ses deux filles, pour garder la lignée de Lot, hein, le père étant vieux, elles vont saouler leur père et coucher avec leur père. Quelle décadence! Et là va naître le peuple de Moab. Il est dit que l'aînée, la fille aînée, enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab, père des Moabites jusqu'à ce jour. Ces 10 années d'exil volontaire, parce que je dis c'est volontaire, ils ont décidé volontairement de quitter Bethléem, la maison du pain, loin de la volonté divine, vont être marquées par une tragédie. Élimélec est mort et ses deux fils vont aussi mourir après s'être mariés avec des filles moabites, provoquant une mésalliance. Faisons attention. Les noms de ces deux fils sont déjà révélateurs du drame. Malon signifie maladie, infirmité, et Kiljon signifiant dépérissement. Ceci montre la prescience divine qui annonce à l'avance ce qui va se produire, ce qui d'ailleurs n'exclut pas le libre arbitre de chacun, parce qu'ils étaient libres de rester à Bethléem ou de partir à Moab. Mais leur départ, leur décision a déterminé les conséquences, car ce que l'homme sème, il le récolte. Vos décisions vont déterminer la suite de votre vie, soit en bien, soit en mal. Si vous êtes accroché au Seigneur, si vous restez sous les ailes de Dieu, quelles que soient les décisions que vous allez les prendre non pas comme Élimélec et Naomi, mais vous allez les prendre comme le Seigneur vous le demande. Et là, vous verrez l'enrichissement et toutes les bénédictions spirituelles que le Seigneur va découler en vous. Naomi se retrouve seul au pays, un pays étranger. Il ne lui reste plus que ses deux belles filles moabites et son amertume devant un drame qu'elle ne comprend pas. Oui, ne m'appelez plus Naomi, douceur, mais appelez-moi Mara, amertume. Car, dit-elle, verset 20, le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. A-t-elle raison de parler ainsi? Alors qu'elle prend elle-même sa propre décision sans Dieu de partir dans un pays de malédiction. Est-ce la faute de Dieu si elle en est là? Ou bien récolte-t-elle les conséquences de cette décision prise sans Dieu? Combien d'entre nous, souvent, nous accusons Dieu de certains événements douloureux et malheureux? Mais si nous étions logiques, frères et sœurs, nous reconnaîtrions que nous en sommes les auteurs, car l'Écriture dit très clairement, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Sur le plan prophétique, Naomi symbolise ici le peuple d'Israël qui, au fur et à mesure de son éloignement des promesses divines, a connu la famine spirituelle, l'exil de la diaspora, le rejet de notre roi Jésus-Christ, lui qui était pourtant le Messie annoncé par les Écritures, va causer pour un temps à notre peuple la perte de l'époux divin, comme Naomi a perdu son mari. Frères et sœurs, toute notre histoire tragique, faite de rébellion ou de désobéissance, avait déjà été prophétisée par Moïse dans le Deutéronome au chapitre 28. Je vous encourage à lire ce chapitre. Malédiction. Ressemblance avec Malon, maladie, infirmité, équil jaune, dépérissement, ce qui traduit l'état actuel de notre peuple, dont les fils sont morts spirituellement. C'est d'ailleurs l'état où les voit le prophète Ézéchiel, rappelez-vous au chapitre 37, ses os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Néanmoins, frères et sœurs, il est juste et normal d'ajouter la suite de la vision d'Ézéchiel. Vision de relèvement, vision de résurrection, vision de salut. Écoutez, prophétise donc, dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi ainsi. De même que Naomi, devenue Mara, se met en route pour entrer au pays. Et oui, comme le fils prodigue, lorsqu'on a tout perdu, on revient, on se rappelle, il est rentré en lui-même, il est dit de ce fils prodigue. Eh bien, Naomi aussi, ayant appris que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain, elle va revenir au pays, revenir au point de départ. Mais souvent, comme c'est le cas ici, lorsqu'on revient, on revient toujours les mains vides. Pourquoi? Parce qu'il faut être dépendant de Dieu. Nous ne pouvons pas ramener les mauvaises choses que nous avons prises dans le pays de malédiction et le ramener près du Seigneur. Il faut qu'on arrive les mains vides pour que le Seigneur puisse nous accepter, laisser toutes les mauvaises choses. Mara quitte sa terre d'exil pour retourner au pays. C'est aussi ce qui se passe pour le peuple d'Israël. Mais Mara a deux belles filles, veuves, Orpah et Ruth, deux païennes étrangères qui, d'après Mara, ne peuvent venir en Israël. Ces deux belles filles étrangères aux alliances représentent ici l'Église sous les deux aspects qu'elles représentent aujourd'hui à nos yeux. Orpah signifie nuque, image d'une certaine Église fière, hautaine, froide, qui veut bien qu'on enceinte jusqu'à ce que reconnaître que le Christ était un juif, comme l'était l'époux d'Orpah, mais pas plus. Qu'on ne lui demande pas de revenir à ses racines juives, non, c'est beaucoup trop. Et beaucoup d'entre nous voulons suivre le Seigneur, mais nous ne voulons pas engager des choses qui nous sont propres. Nous ne voulons pas aller plus loin. Elle veut bien aller au pas. Jusqu'à la frontière de Moab, le texte le dit, par politesse pour sa belle-mère, et même affirmer du bout des lèvres qu'elle lui veut du bien, ne déteste pas les Juifs, ni ne leur veut du mal, et même prendra leur défense. Mais son amour pour sa belle-mère juive n'ira pas plus loin. Cela l'engagerait trop. Nous aussi, quelquefois, nous ne voulons pas trop nous engager lorsque cela nous dérange, lorsque suivre le Christ évangéliser nous demande, bien nous ne voulons pas laisser nos choses mauvaises. Mara, Israël, comprend bien cela. Le chemin d'Israël a toujours été un chemin de solitude et d'incompréhension. C'est pourquoi elle dit à ses belles filles, « Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? À cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Ce n'est peut-être pas à cause de ses belles filles, mais à cause de ses fils qui se sont mariés avec des filles moabites. On ne peut pas pactiser avec l'autre camp. C'est pas possible. Et à vrai dire, bien que ces choses a été dite à toutes les deux, nous remarquons que chez Ruth, la Moabite, une toute autre réaction, un tout autre aspect de l'Église vraie, celle qui sait entendre la voix de l'Esprit de Dieu, encore l'Esprit de Dieu, et sait comprendre le plan divin. Orpah saura s'arrêter sagement à la frontière après un baiser filial à sa belle-mère. cela l'engage trop. Mais Ruth, dont le nom signifie amitié, Ruth, dont le nom signifie amitié, le langage du cœur, par opposition au langage de la raison typifié par Orpa, est entière dans sa réaction. Il faut que nous soyons vrais et entiers dans nos réactions, dans nos convictions à suivre le Christ. Le texte nous dit qu'elle s'attacha à sa belle-mère, et malgré les instances de celle-ci, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Eh bien, cette sorte d'église, Ruth, existe heureusement. Elle se sait concernée par l'histoire d'Israël et sa survie miraculeuse. Elle sait que ce peuple exceptionnel, même dans ses erreurs, car il est le peuple témoin, le peuple élu que Dieu s'est préparé et qu'il connaissait. Pas étonnant que, quelquefois, il y a des rétrogrades parmi nous. Pas étonnant que, quelquefois, dans nos familles, il y a des rétrogrades. Dans ma famille, il y en a. J'ai un frère qui a accepté le Seigneur dans cette église. Et on se voit tout le temps. Malheureusement, ça l'engage trop à suivre le Christ. Ça l'engage trop à venir le dimanche matin. Ça l'engage trop à quitter un certain nombre de choses pour venir aux études. Les motivations d'Orpa ne sont pas les mêmes que celles de Ruth. La première symbolise la raison, Orpa, nuque, l'église qui se dit raisonnable et n'agit qu'avec le foi calcul qu'elle s'est fixé. La seconde symbolise le cœur, siège de ses affections, où l'Esprit divin lui a imprégné à son devoir et ses responsabilités. Ne croyez-vous pas, frères et sœurs, que ce passage de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 10, prend tout son sens ici, s'il est observé. « Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Tout cela démontre la valeur prophétique de ce livre de Ruth. Et en suivant ainsi le cheminement dramatique de Mara Israël avec Ruth, église, l'une de ces belles filles qui résolument l'accompagne dans ce difficile retour au pays, toutes les deux vont vers la plus belle des rencontres, Boaz, qui symbolise le Messie. Et oui, nous aussi, nous devrions faire ce pas pour avoir cette belle rencontre avec le Christ. Et si ce matin, vous ne connaissez pas encore le Seigneur, si ce matin, cela ne vous dit rien ou cela ne vous a pas parlé, ne partez pas sans avoir reçu le Seigneur, sans avoir fait la paix avec Christ, sans avoir fait cette belle rencontre que j'ai faite, que nous avons faite et que nous ne rencontrerons jamais. Bethléem, là où commence toute l'histoire, mais là où finira aussi l'histoire, parce que il va avoir le commencement de la moisson. En Romains chapitre 8, verset 28, il est dit, la Bible affirme, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, bonnes ou mauvaises, frères et sœurs, ont été dramatiques pour Israël au cours des 20 siècles. Mais ces choses, ces circonstances, Dieu les a transformées en bénédiction et en abondance. Et c'est le même Dieu qui a fait ces choses. C'est ce même Dieu que nous avons. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais retrouvons ces deux femmes, Mara et Ruth, Israël et l'Église, dans leur retour au pays. Voyez, ce livre est merveilleusement prophétique. À peine rentrée de Bethléem, terre de Juda, le premier champ où Ruth ira glaner pour se nourrir et nourrir sa belle-mère, c'est celui de Boaz. Le texte dit « Il se trouva par bonheur ». Il y a certains textes qui sont écrits « Il se trouva par hasard ». n'y a pas de hasard. Ok? Dans le plan de Dieu, il n'y a pas de hasard. Il se trouva par bonheur que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui lui était de la famille d'Élimélec. Voilà un bonheur vraiment providentiel. Pour nous croyants, habitués aux Écritures et qui avons le Seigneur, avec le Seigneur, une expérience personnelle, nous savons pertinemment que le hasard n'existe pas. Et dans ce texte, ce mot ne signifie pas coup de chance aveugle, mais sous-entend la main divine qui dirige les événements et les fait concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Et par-delà ces deux femmes, Dieu, dans sa prescience, voit et prépare son plan divin pour le salut d'Israël et des nations et agit actuellement par les événements que nous vivons en vue de la préparation du retour de Christ. Frères et sœurs, prenez la Bible, prenez votre Bible et comparez les multiples prophéties de la Bible avec les événements déjà accomplis ou en voie d'accomplissement, surtout depuis 1948 avec le rétablissement de l'État d'Israël. Et vous verrez, vous serez surpris de constater que Dieu ne cesse de diriger ces événements dans le sens même du plan mondial qui, lui, il a fixé et dont Israël et l'Église sont les éléments actifs avec, pour toile de fond, le petit pays d'Israël dont Jérusalem sera un jour la capitale du monde. Car, dit le Seigneur, c'est moi qui ai oint, qui ai consacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Ces deux femmes marchent en marche vers Israël, l'Église et Israël. Mara et Ruth pénètrent ensemble dans le champ de Boaz, le champ des Écritures, le champ des promesses divines qui annoncent ou font allusion 318 fois au retour du Christ. 318 fois, il est fait mention du retour de Christ dans ce livre. Alors, combien nous devrions réfléchir dans le champ au moment de la moisson? Remarquez d'abord que seule Ruth va glaner dans ce champ au temps de la moisson. Sa belle-mère en est incapable et c'est donc elle qui a la charge pour les deux de chercher ce qui sera pour leur bien, pour leur nourriture. Oui, le Saint-Esprit a encore agi là. Vous recevrez une puissance, n'est-ce pas Jean-Pierre? Vous recevrez une puissance, l'Esprit Saint, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Boaz, remarquons aussi que Boaz, parent d'Élimélec et Naomi, et selon la loi, a droit de rachat sur Ruth. Et c'est de leur union que naîtra plus tard David, d'où sera engendré selon la chair par Myriam le Messie Jésus-Christ. Boaz signifie en lui la force. N'est-ce pas en Jésus-Christ que nous avons la force? Et dans ce récit, il représente le Christ dans le champ duquel sont venus se réfugier Israël et l'Église, symbolisés par Naomi, Mara et Ruth, la Moabite. Ce merveilleux récit se termine par l'annonce du mariage de Ruth avec Boaz sous l'approbation heureuse de Naomi. Et de cette union naquit Obed, Ésaïe, puis David, et beaucoup plus tard, Jésus, fils de David, le Messie d'Israël, du monde entier. Ce qui fait de Ruth une aïeule transjordanienne de Jésus-Christ. De même, la Bible aussi annonce les noces de l'agneau avec son Église véritable, n'est-ce pas, préparée et présentée au Seigneur comme une vierge pure. Un peuple qui, enfin, par son retour au Messie, sera retrouvé pleinement sa vocation, sera un peuple missionnaire par excellence. Et nous, serons-nous cette Église qui aura trouvé dans le Christ pleinement sa vocation et sa mission par excellence? Oui, ces choses ont été écrites afin de nous servir d'exemple. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.